Alors, bonjour à tous. C'est comme toujours un plaisir d'être devant vous pour apporter la parole de Dieu en ce beau dimanche d'été. Donc, quand Thomas m'a parlé de prêcher à ce moment, il a mentionné que ça pourrait être intéressant de parler du thème du repos en cette période de vacances. Et puis, en y réfléchissant, j'ai décidé de plutôt parler du travail. Mais justement dans l'idée de profiter de ce moment un peu différent, aussi pour prendre un peu de recul sur le travail, sur notre rapport avec lui. Et puis d'autre part, si vous êtes là ce matin, c'est que vous n'êtes pas actuellement en train de vous dorer la pilule sur une belle plage au bord de la mer, donc peut-être qu'il n'y a pas que des gens en vacances ici. Voilà. Et puis, pour parler de cette question du travail, je vais prendre plusieurs passages qui en parlent dans le livre de l'Ecclésiaste, et puis compléter un peu ça avec encore une partie du Sermon sur la montagne, donc de l'enseignement de Jésus. Donc l'Ecclésiaste, c'est un de ces livres qui est dit « livre de sagesse » dans l'Ancien Testament. C'est une réflexion sur le monde, sur comment vont les choses et l'existence humaine, mais faite aussi avec l'aide de Dieu, à la lumière de la révélation. Et puis, pour mettre un tout petit peu dans le cadre, et commencer par parler deux secondes d'un autre livre de sagesse, qui est le livre des Proverbes, qui a là une sagesse assez directe, assez pragmatique. Travaille bien et tu t'en porteras mieux. Sois paresseux et tu seras pauvre. Ne bois pas trop, ça conduit à faire des âneries, et ainsi de suite. Donc, en gros, fais ce qui est bien, fais ce que tu as à faire, ça se passera mieux pour toi. Donc c'est une sagesse assez directe, assez pragmatique, et puis avec laquelle on est, je pense, assez familier. Et dans nos régions, je crois que l'idée que travailler, c'est une chose importante, une chose qui a de la valeur, et puis que les gens sérieux travaillent bien, on est assez familier avec. Alors, l'Ecclésiaste, lui, c'est un livre qui prend un peu plus de recul, et qui va plutôt se demander, mais finalement, est-ce que ça marche tout ça? Et à quoi bon? À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et puis c'est un peu cette réflexion-là qui va nous accompagner ce matin. Alors, encore un tout petit peu pour mettre le cadre. Il y a toute une discussion pour savoir si le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon ou si c'est un autre auteur qui se met un peu dans la peau du roi Salomon pour illustrer ce qu'il a à dire. Je ne vais pas entrer dans cette controverse-là qui est compliquée, mais juste pour dire que pour saisir un petit peu mieux le propos, il faut aussi se mettre dans la peau du roi Salomon, le plus grand, le plus riche et le plus sage des rois d'Israël, qui, arrivé un peu vers la fin, jette un regard en arrière. Et puis donc, une fois qu'on aura vu un peu ce regard de l'Ecclésiaste, eh bien, on se tournera vers l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Je vais donc prendre un premier passage en Ecclésiaste 2, 5 à 11. J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs d'eau pour arroser une forêt de jeunes arbres. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail, en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or, trésors provenant des rois et des provinces qui m'étaient soumis. Des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir, et j'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. Je devins quelqu'un de considérable, bien plus considérable que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, je restais lucide. Je ne me suis rien refusé de ce que je souhaitais, je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai largement profité de tous mes travaux, et j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait me donner. Alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, course après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie ici-bas. Et donc, L'auteur montre comment, par son travail, sa richesse et son habileté, il a pu acquérir et accumuler tout ce qui peut sembler profitable et confortable dans notre temps, dans son temps. Parce que dans notre temps, ça serait peut-être un peu différent. Dans notre époque, il aurait pu être plutôt dit « J'ai eu un écran plasma géant en Full HD avec son Dolby Surround. J'ai eu 3 BMW dans le garage de ma grande villa avec piscine. Je suis allé à tous les concerts des plus grands artistes que j'ai pu souhaiter entendre. » Peut-être qu'il ajouterait encore des voyages dans les plus beaux pays du monde et dans les plus belles capitales. Mais quoi qu'il en soit, parvenir à ce degré de réussite et de confort, eh bien, il prend du recul. Il reconnaît qu'il a eu du plaisir dans toutes ces choses. Mais quand il se demande ce qu'il en reste, ce qui est vraiment durable, ce qui est profondément satisfaisant, il en arrive à la conclusion que rien de tout cela n'a un profit véritable. Rien de tout cela n'est quelque chose qui satisfait profondément et puis qui va durer et qui va rester. Et c'est toute la question douloureuse de ce livre. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Et on va continuer cette question avec un autre passage. En Ecclésiaste 2, 18 à 26. J'ai détesté toute la peine que j'avais prise ici-bas, puisque je devrais abandonner mes réalisations à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en homme sage ou en sot? Qui peut le savoir? Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis ici-bas par mon travail et ma sagesse. Encore de la fumée sans lendemain. Alors, l'idée que j'avais tant travaillé ici-bas m'a conduit au bord du désespoir. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée sans lendemain, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent faire ici-bas? Leurs occupations ne leur apportent que soucis et tracas quotidiens. Et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée sans lendemain. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne le lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie, mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Alors ici, l'auteur s'attaque à l'idée des grandes réalisations, d'une réussite marquante, à l'idée de laisser une trace, de bâtir quelque chose qui va durer. Il se rend compte qu'il devra de toute façon laisser à un autre tout ce pour quoi il a peiné, et qu'il n'a aucune certitude que celui qui lui succédera en fera quelque chose de bien. Mais pour le roi Salomon, c'était une très bonne question, quand on se rend compte que son fils a réussi à provoquer la scission de son royaume, elle ne plus régnait que sur un petit quart du grand royaume que Salomon avait construit. Mais donc, en réfléchissant là-dessus, Salomon se rend compte que peiner, se soucier et s'inquiéter pour réaliser de grandes choses n'en vaut pas la peine. Que même les grands projets, les grandes réussites ne vont pas durer et ne vont pas être quelque chose de satisfaisant et qui dure. Toutes les choses qu'il considère, il les voit comme de la fumée emportée par le vent. Comme une chose qui est là un moment, peut-être un moment plus long qu'un autre, quand il s'agit de grandes réalisations. Mais tout de même, le vent, le cours des choses finit par emporter tout ce qu'on peut réaliser ici-bas sur cette terre. Et alors, la voie que l'Ecclésiaste ouvre est plutôt celle de se satisfaire des choses simples. Il n'a d'ailleurs même pas une vision entièrement négative du travail. Il s'agit bien de se réjouir des fruits de son travail, en même temps que du manger et du boire. Mais ce n'est pas le travail, le succès et la réussite qui donnent réellement le bonheur. Le bonheur, finalement, c'est un don de Dieu. Et à l'inverse, la passion d'accumuler des biens, d'être toujours de plus en plus riche, ou de disposer de toujours plus de confort, bien, c'est présenté là carrément comme une punition pour ceux qui désobéissent à Dieu. La volonté d'accumuler et de devenir de plus en plus riche, eh bien, c'est une manière de penser par laquelle les gens se punissent eux-mêmes en se pourrissant la vie, si je peux parler ainsi. Et finalement, si des gens arrivent à accumuler des centaines et des centaines de millions, eh bien, ce n'est pas qu'ils ont été particulièrement malins, c'est qu'ils ont été particulièrement bêtes. Parce que, comme dit un auteur que j'aime bien, pour être assez malin pour acquérir tout cet argent, il faut être assez idiot pour le vouloir. Et donc, enchaînons avec encore un court passage de l'Ecclésiaste, en Ecclésiaste 4, versets 4 à 6. J'ai découvert que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Bien sûr, le sot qui se croise les bras se laisse mourir de faim. Mais il vaut mieux s'accorder un peu de repos que s'éreinter à un travail qui est une course après le vent. Donc maintenant, il lève encore un peu le voile sur les motivations. Toute cette peine, toute cette course à la réussite est finalement souvent alimentée par un esprit de compétition et par une jalousie malsaine. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, toujours quelqu'un qui réussira mieux. Alors, autant essayer de rattraper le vent que d'essayer d'être le premier dans cette course à la réussite. Alors, bien sûr, en même temps, l'Ecclésiaste reste d'accord avec la simple constatation que le paresseux, que celui qui ne fait rien du tout, en arrive à se ruiner lui-même. Ce n'est pas le travail quotidien que l'Ecclésiaste fustige, mais c'est l'investissement de toute son énergie dans le travail, au dépend de sa santé et de son bonheur. Et nous prenons maintenant un dernier texte de l'Ecclésiaste pour voir un peu où l'amène sa réflexion. Alors, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de la fugitive existence que Dieu t'accorde ici-bas. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends ici-bas. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. Donc finalement, l'Ecclésiaste revient à cette idée de profiter des choses simples. Et lui qui se vantait au début d'avoir eu un grand nombre de femmes, finit par recommander de profiter de la vie avec la femme qu'on aime. Et il a bien raison. Finalement, mieux vaut un peu d'amour fidèle, partagé et durable que beaucoup de plaisirs sensuels et éphémères. Et quant au travail, il encourage même à réaliser des choses. Et l'activité et la créativité font partie de notre destinée sur cette terre et de ce à quoi nous sommes appelés et de ce qui y donne du goût. Mais il a simplement montré qu'il ne faut pas y mettre sa valeur, qu'il ne faut pas mettre la valeur de l'existence dans le travail qu'on peut accomplir, dans les choses qu'on peut réaliser ou dans les biens qu'on peut y gagner. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ce que l'Ecclésiaste disait, nous nous tournons vers l'enseignement de Jésus dans le serment sur la montagne. Donc je vais lire un assez gros extrait, mais que je ne vais pas commenter dans tous les détails. Donc c'est dans Matthieu 6, les versets 19 à 21 et 24 à 23. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. » Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni ver, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui sera demain jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors globalement, Jésus semble reprendre une perspective proche de celle de l'Ecclésiaste. Toutes les richesses que nous pouvons accumuler ici-bas sont temporaires. Elles sont vulnérables, au ver, à la rouille, aux voleurs, et aux crises économiques et à la dette grecque. Et même si nous conservons nos richesses toute notre vie, ailleurs Jésus parle d'un homme qui a rempli ses greniers de biens, et Jésus le traite d'insensé parce que le même jour, Dieu peut lui redemander sa vie. Au jour de notre mort, nos richesses ne nous accompagneront pas. Comme beaucoup le disent, on n'a jamais vu un corbillard qui traînait un coffre-fort derrière lui. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de la mort, est-ce qu'en se donnant beaucoup de peine et en travaillant dur et en se faisant beaucoup de soucis, on peut repousser le jour de notre mort? Non. Et nous le savons bien. Et médicalement parlant, ça serait même plutôt le contraire. Donc, la pertinence du travail et d'inquiétude résume la limite de plusieurs manières. Et il ajoute pour cela une autre idée. C'est celle de la confiance en Dieu. Nous valons bien plus que nos vêtements et notre nourriture, et Dieu connaît nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ça ne veut pas dire que nous n'allons rien faire du tout. Comme me le faisait remarquer ma mère, Dieu nourrit les oiseaux du ciel, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de chercher leur nourriture et de la picorer et de la manger. Mais je crois que la notion à retenir est plutôt dans le « à chaque jour suffit sa peine ». Faisons aujourd'hui ce que nous avons à faire et laissons demain à demain. Il y a tant de choses que nous ne contrôlerons pas et nous ne pouvons pas garantir notre avenir par nos inquiétudes. C'est de toute façon au final de Dieu que des choses dépendront. Même si ça n'empêche pas d'avoir un peu de sagesse dans ce que nous faisons aujourd'hui et de comment nous préparons le futur, nous n'aurons jamais une maîtrise totale là-dessus et se ronger les sangs en inquiétude ne nous servira à rien. Mais donc finalement, par opposition aux richesses transitoires et insuffisantes du temps présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit d'accumuler des trésors dans les cieux, mais comment est-ce qu'on fait cela? Quel est donc l'investissement réellement durable? Alors, dans la notion de trésor dans les cieux, Il y a l'idée que, par exemple, si on donne à celui qui en a besoin, sans chercher à y gagner un retour sur un investissement ou une belle réputation, eh bien c'est Dieu qui récompensera cela, et que la récompense sera dans l'éternité. Mais aussi, si tous les biens et toutes les réalisations et toutes les richesses vont disparaître, il nous faut nous demander ce qui dure réellement. Et je crois que nous n'avons affaire qu'à deux êtres qui vont durer toujours. Dieu et notre prochain. Dieu vit dans l'éternité et nous tous, nous sommes appelés à une destinée éternelle qui peut être bonne ou mauvaise. Et je crois que cela colle bien avec le fait que Jésus a dit que les deux plus grands commandements étaient d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Parce que Dieu et notre prochain sont les deux seuls êtres éternels que nous serons appelés à côtoyer. Et donc, ce qui vaut la peine, c'est de se préoccuper de notre relation avec Dieu, de profiter de le connaître, de trouver notre plaisir en sa présence, à le louer, à dire tout ce qui est bon en Dieu. Et c'est d'aimer notre prochain, de profiter de relations vraies et riches avec notre prochain, et aussi de nous comporter avec lui d'une manière qui pourra lui montrer qui est Dieu, qui pourra l'encourager lui-même à profiter de cette relation avec Dieu et à en profiter d'une manière qui se prolongera dans l'éternité. Et donc, si vous cherchez comment investir votre temps et vos économies, voilà le conseil du matin. Pas dans des billets sous le matelas, pas sur le marché des actions, ni dans l'immobilier, ni dans l'argent ou dans l'or, mais dans le royaume de Dieu. Faisons connaître aux hommes que par Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et montrons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà les choses qui vont durer. Et donc, pour conclure et pour jeter un petit regard d'ensemble sur ce que j'ai déjà dit ce matin, je crois qu'il y a trois niveaux, trois étapes dans le regard biblique sur le travail, qui ne s'annulent pas, mais s'ajoutent les unes aux autres, se complètent et s'ajustent un peu. Il y a d'abord le niveau pragmatique qu'on trouve, par exemple, dans le livre des Proverbes. Il faut bien travailler pour gagner sa vie. Le travail fait partie de notre vocation d'être humain, et mieux vaut faire correctement ce qu'on a à faire que de se croiser les bras et de ne rien faire. Mais ensuite, il y a la prise de recul de l'Ecclésiaste. Le travail n'est pas tout. Il ne sert à rien d'en faire trop pour accumuler des richesses ou des succès. Mais il faut se garder le temps et l'énergie pour profiter de l'existence. Et ensuite, il y a l'apport de Jésus. Nous pouvons avoir confiance quant à nos moyens d'existence, parce que Dieu connaît nos besoins. Et là où il vaut la peine d'investir, c'est dans le royaume de Dieu. Faire connaître Dieu et nous aider les uns les autres à le connaître de plus en plus. Faisons donc notre travail là où nous sommes, avec plaisir, sans en faire un Dieu ou un objectif ultime. Profitons de cette existence avec ce qu'elle a de bon, en nous rappelant que cela ne dure pas à toujours. Et occupons-nous de ce qui va durer à toujours, Dieu et notre prochain. Réjouissons-nous dans la relation avec Dieu et faisons connaître autour de nous, dans nos actes et nos paroles, la grâce de Jésus-Christ. Amen.